massa fler elektriciteten går genom hjärnan. Hjärtpillen skär genom nervsystemen. Kroppen skakar till och allt. Vad ger som rätten att ta deras liv? Använda deras liv till sin forskning. Fylla dem med skit för att mota vår cancer. Vi kan väl se på när de mördar djuren. I'm a liberation. Alla djurförsök är mot. Det finns alternativ till djurförsök. Man kan använda ansträngningar istället för djur. Inga jävla spegmuntrar ska mörda för djur. För att folk ska kunna använda deras skit. I'm a liberation. Alla ju försök är mot.
Eh bien, ça va être bien sur le 92.2 MHz de Canal Sud, c'est la vie d'ordure qui commence. Donc, on est ensemble jusqu'à 23h. Et ce soir, c'est un numéro un peu spécial que nous a préparé Germain.
C'est un bien grand mot, mais effectivement.
Ben, vas-y.
Oui, explique-nous. Ouais.
Ben oui, vas-y.
Ah, vas-y, d'accord. Non, oui, ce soir, donc, émission un peu particulière. À l'occasion déjà d'un concert un peu particulier ouais. Qui aura lieu ce samedi. Et voilà, parce que donc ce soir on accueille dans ses locaux Woodwork.
Voilà. Salut, salut, salut.
Donc ce qu'on va faire déjà, peut-être vous allez vous présenter.
Ouais.
Au moins, voilà, pour les voix, les tonalités de voix, pour les gens qui écoutent.
La voix la plus douce en premier.
Non, Grand Schtroumpf d'abord.
Grand Schtroumpf, c'est donc ton...
Ouais, c'est moi, Grand Schtroumpf.
On va t'appeler Grand Schtroumpf.
Non, pas tout le temps.
Pour toutes les émissions.
Non, super, merci Alex. Alors, moi je m'appelle Nico et je chante dans Woodwork, tout simplement.
Ok, moi c'est Alex et je fais de la guitare dans Woodwork. Il y a aussi donc Julien qui fait la basse, qui n'est pas là ce soir. Pareil pour Nab.
D'accord.
Pareil, deuxième guitare. Et Aurélien.
Ils ont un mot d'excuse ou...
Alors Aurélien a des enfants.
C'est une sacrée excuse. Tu veux dire qu'il a fait volontairement des enfants pour éviter de venir.
Pour éviter de venir, ouais, c'est dit Aurélie.
Il a prévu depuis combien de temps
9 mois.
C'est incroyable ce truc, quoi.
Voilà, c'est clair.
Il avait anticipé, tu vois, l'invitation déjà.
Il en avait pensé.
Ouais.
Et voilà, et donc le père Aurélien pour la batterie.
D'accord.
C'est ça.
Donc avant de rentrer plus dans l'univers du groupe, dans ce que vous avez fait, je pensais que c'était important de répondre à deux petites questions, en fait.
Mmh. Ouais.
Un peu rapidement, mais c'est des questions qui permettent, je trouve, de comprendre un peu, peut-être, les motivations qui font qu'on continue de faire des groupes, en fait, de hardcore. Donc la première question, c'est... simple, c'est qu'un mot, c'est pourquoi. Pourquoi avoir décidé un jour, tous ensemble, de faire un groupe? C'est important, juste par plaisir, par ennui ou pas. Et surtout, est-ce que ce sentiment a évolué depuis le début du groupe à maintenant?
Le sentiment de...
Du pourquoi. Pourquoi avoir eu un jour ce désir de faire un groupe?
Alors moi je pense perso que... Pour répondre à la première question, c'était donc celle qui a pourquoi avoir l'idée de faire ce groupe. Alors auparavant, avec Nico, Nab, Aurélien et quasiment tout Woodwork, on jouait dans Bridge Too Many, pareil un groupe de hardcore, peut-être un peu plus mélodique, inspiré de toute cette vague de groupes qu'il y avait eu là, dans la deuxième, à partir de 2005 jusqu'à 2010 à peu près, là, tous les trucs Bridge Nine et autres. type Avert, Go It Alone, et tout ça. Voilà, bon, on a envie de peut-être de changer de un peu de direction musicale et de faire un truc qui peut-être nous correspondait plus à ce moment-là. Donc c'est-à-dire c'était en 2011 à peu près.
C'est ça.
2011. Ouais. Et bah du coup on était tous plutôt motivés. Hein. C'est plutôt banal hein, comme histoire.
Non,
c'est...
simplement moi c'est... je le voyais plus sur un pourquoi moins technique quoi. Pourquoi combler d'un coup sa vie, son existence, son temps par un groupe quoi. Football.
C'est parce qu'on
sur l'aspect musical.
On aime tous faire un prix. Quand t'es voulu dans le milieu punk hardcore, t'as toujours cette envie de, enfin ce besoin pas de combler quelque chose, mais tu soit tu fais de la musique, tu joues. Ouais. Soit t'écris, soit tu organises des concerts, soit tu vas écrire des zines. Enfin, t'as envie de t'impliquer. Alors après,
soit tu fais des bandes pour aller voir des groupes.
Soit
aussi.
Tu fais des bandes, tu soutiens les groupes et tout ça. Mais c'est vrai que on était un petit peu tous dans le. Enfin, nous dans la musique, on avait déjà des groupes avant. Enfin, tous d'ailleurs. Enfin, ouais, Nab, Julien, il avait Backside, il avait.
No Guts.
Mmh. Voilà, No Guts and Glory.
C'est l'idée d'être dans un environnement en fait, je veux dire où
il
y a des groupes, des concerts, des
ça après ça fait tout quand même super longtemps qu'on évolue dans ce sphère là. Moi ça fait depuis que j'ai 15 piges que voilà, j'en ai 32 aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans du coup que j'évolue dans ce sphère là.
Je le fais pas, ça.
Mais c'est très sympa.
T'attendais hein,
c'est vrai que ça lui porte
bien. non donc du coup non, moi comme Nico j'imagine on a tous évolué dans cet univers là depuis l'adolescence et aujourd'hui on y est toujours, voilà, ça nous parle toujours, on s'y sent bien. Donc voilà, c'est vrai que comme disait Nico, soit tu fais un groupe, soit tu t'écris des zines, et puis nous la musique on s'y est tous mis, et puis c'est ça qui a fait qu'on a voulu monter un truc ensemble, parce que du fait qu'on soit aussi tous super potes,
c'est ça,
toujours vachement cool de partager un truc avec ses potes quoi.
Non, justement, tu m'as tendu une perche,
tu me la redonnes
de nouveau, parce qu'après le pourquoi là tu parles de tes potes, qu'il y a un truc malgré tout qui est important je trouve, c'est cette notion de pour qui aussi, pour qui on fait un groupe en fait. Est-ce qu'on fait un groupe pour soi, pour ses potes, ou pour les gens potentiellement qui peuvent écouter, et de nouveau paramètres. Entre le tout début et maintenant, alors que bon, faites des tournées internationales, vendez des disques, des palettes de disques quoi, donc peut-être que ce sentiment de pour qui il a changé, peut-être que quand vous écrivez ou composez vous dites, tu vois, est-ce que ce sentiment là de pour qui à destination de qui il a changé quoi.
Je pense que tu fais un petit peu pour les deux, c'est plus complexe que ça, enfin c'est pas binaire, tu vois, enfin tu fais pas que pour toi ou que pour les autres
mais dès le début
c'est vraiment, t'as une envie de on a voulu faire un style en particulier, enfin en tout cas on était plus parti sur la veine 90s, enfin dans l'idée quoi, à voir comment ça allait évoluer, mais c'était plus voir lancer les choses, tu vois, voir comment les choses évoluent. Après est-ce que se poser la question, est-ce qu'on le fait pour les autres, est-ce que ça va leur plaire, etc. Je pense que ça c'est un truc qui vient a posteriori, tu vois, enfin vraiment
oui, puis qui vient comme il vient hein. soit ça peut le faire, soit ça le fait pas hein. Mais
ça rentre jamais en ligne de compte.
L'histoire c'était de faire un truc en commun, donc faire un groupe et s'amuser puis aussi pour le plan musical, se faire plaisir, et puis après par ce biais-là faire passer aussi un message hein, parce que
ouais, si les gens après ils aiment, enfin après si les gens aiment ce que tu fais, c'est toujours valable, c'est fatal, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Mais c'est vrai qu'à la base bon on fait vraiment ça pour le plaisir quoi. Après quand on écrit aussi que ce soit les paroles mais quand on compose en général, si on se fait plaisir d'abord à nous, si le truc nous parle, qu'on est content, et après si ça on arrive à transmettre quelque chose.
Bah, c'est toujours plus facile de transmettre quand tu fais quelque chose par conviction que quand on dit les temps, quoi.
Ouais, c'est un bon.
C'est ça.
C'est vrai que la conviction. Donc maintenant que vous avez répondu aux questions du pourquoi, du pour qui, on peut peut-être écouter un premier titre de Woodwork qui permettra de se rendre compte de votre ambiance. Je vais dire musical, on peut dire musical.
Ouais, c'est exactement ça.
Exactement
ça.
Donc le premier titre, j'ai pris State of Oppression. Vous pouvez le présenter un peu rapidement
ce
titre.
C'est toi qui as écrit.
State of Oppression, c'est sur le, comme c'est assez explicite en fait, sur l'état l'oppression de l'État en fait. Et c'est un texte qui parle surtout de la guerre en fait et de la construction en fait des conflits par les États justement, et toute cette espèce de en fait, de glorification de la mort, en fait, et de manque de respect, en fait, du vivant sur les. Je parle des humains, en fait, qui vont se battre, en fait, des mecs qui vont se battre à l'étranger, par exemple, et du coup, ils sont portés comme des héros dès qu'ils meurent, en fait, et considérés comme des. Comme rien, en fait, quand ils sont de leur vivant, on va dire. Mais il y a ce côté glorification de la mort, mais aussi c'est aussi cette idée de d'imposer une démocratie en fait sur des bases universalistes, tu vois, à la française, ouais, quoi. Clairement. Les droits de l'homme en France, etc. On te parle droits de l'homme.
C'est ça, ouais. Cet aspect.
Mais on va donner des lois. En fait, ce côté aussi là, donneur de leçons en fait à l'international, comme si on avait des standards vraiment toujours, enfin, extraordinaires, tu vois, en France.
Et après, c'est typiquement occidental comme façon de raisonner et puis de voir les choses et puis aussi de les un peu les imposer aux autres directement comme indirectement de manière.
C'est ça, quoi. Ouais,
de juger selon nos critères, nos systèmes de valeurs.
Oui, c'est ça, exactement, ouais. Exactement.
Mais du coup, ouais, c'est ce côté-là de cette volonté perpétuelle en fait des États, des gouvernements de vouloir partir, d'aller toujours dans des zones. En justifiant, en avançant des arguments qui sont pas forcément très, on capte vraiment le pourquoi en fait d'une intervention militaire parce que t'as toujours des intérêts économiques ou, mais t'as un aspect aussi très
un peu romancé quand même.
Ouais, très romancé en fait pour montrer l'objectif qui est simple en fait, c'est juste on va dégamer des gens, tu vois, et peu importe s'il y a des dommages collatéraux, on y va.
L'écriture de l'histoire en fait se fait. Par le biais du mensonge, en fait, quoi.
Aussi, ouais.
En partie, ouais.
Donc, globalement, ça parle de ça, quoi.
Tout ça tient dans 2 minutes 31.
Ouais, après, on explique un peu plus. Et après, ouais, on a écrit, enfin, il y a des sur le, parce qu'on a un bandcamp, en fait, enfin, du coup, on a les textes, enfin, même sur le vinyle, on a, sur le livret, on a les explications de texte, en fait, pour aller un peu plus profond, enfin,
profondément dans les... Ça s'arrête pas juste à une chanson, quoi, quelque part.
Non, ouais, clairement pas.
Bon, bah alors, on va écouter plus qu'une chanson. Ouais. Parce que c'est plus que de la musique, quoi.
C'est vrai.
Chez Woodwork.
Bienvenue chez nous.
Woodward, je fais une association d'idées un peu simple, quoi, mais liée à ma classe sociale. Alors, donc il y a du bois, il y a du travail. Donc moi, je pense à l'artisanat un peu bêtement, quoi.
Mais ouais, c'est, non, c'est ça. Ouais, la menuiserie.
Voilà, menuiserie. On prend des petits bouts de choses qu'on met ensemble. C'est mon côté CAP peut-être, quoi. Et donc il y a ce travail un petit peu, toi, laborieux, toi, où tu mets du temps fastidieux à construire quelque chose. D'ailleurs, vous avez mis quoi? J'ai vu 4 ans, c'est ça, entre la démo et le LP.
Il y a eu un 45 tours, ouais, entre temps.
Il y a
eu
un 45, quoi. Ouais.
Mais est-ce que cette notion du temps, justement, tu vois, de prendre son temps pour faire grossir quelque chose, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est quelque chose, vous réfléchissez à ça, ou c'est
non, là, ça s'est fait tout naturellement.
De circonstances,
ouais. Ouais, on a tous nos occupations extra woodwork.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on n'est pas non plus des gros acharnés de la répète, quoi. Mais c'est, on prend le temps, les choses se font, le rythme convient à tout le monde, plus ou moins. C'est vrai que moi, des fois, j'aimerais bien aller un peu plus vite, quoi, certaines choses, mais c'est vrai que quand on prend le temps, là, le LP, clairement, on a mis le temps de le faire. Mais
en composition, quand on était avec Aurélien et Julien, les morceaux, on les a écrits très rapidement.
C'est
quand
vrai,
même.
Ouais.
On arrivait à faire au moins deux morceaux par répète à chaque fois, composer.
D'accord. Et c'est sûrement parce que vous avez un peu d'expérience, ou pas si comme des groupes.
Ça, et puis il y a aussi le facteur inspiration, tu sais. Ouais. T'as des moments où t'as rien qui sort, ou tout ce qui sort c'est de la daube. Et des moments où t'as plein d'idées, et elles arrivent. C'est toujours comme ça. Non, mais c'est ça, c'est vite le plus possible, tant que c'est encore frais, pour étaler sur la page, et puis faire les morceaux, quoi.
Alors vous êtes, admettons, des artisans dans cette grande industrie, quoi.
Ouais.
Et est-ce que vous vous sentez proche d'une scène? Est-ce qu'il existe une scène dont vous vous sentez, ouais, voilà, lié par affinité? Je veux dire, toi, tu parlais de hardcore 90, c'est ça, plus ou moins. Est-ce, ouais, qu'il, est-ce que il existe une scène française de voilà, qui...
Peut-être plus aujourd'hui, je pense.
Ouais, pas, je pense
aujourd'hui.
Il n'y a pas de groupe, mis à part Woodwork, qui a repris un peu ce flambeau.
Hardcore 90s en France.
En tout cas, ça vous vient pas tout de suite, quoi. Ça,
pas le
J'ai réfléchi en plus l'autre jour. Je me suis dit, est-ce qu'il y a d'autres groupes qui jouent dans ce créneau-là, justement pour rencontrer, ouais, pour faire des dates ensemble,
pour créer
un
truc comme,
ouais,
ça, quoi.
Voilà, c'est ça, ouais.
T'as Illusion. T'as toute la veine, la veine Metal Edge, enfin, avec Primal Edge, justement. Mais bon, c'est des groupes un peu plus vieux, mais sont pas vraiment, c'est pas du hardcore 90s, quoi.
Ouais,
c'est
mais
plus
de notre génération, je crois qu'il y a que nous, hein,
ouais,
vraiment dans ce créneau-là.
Faudrait demander à Nabil, mais il est pas là.
Ouais,
c'est son téléphone.
Après, sincèrement, je pense qu'il y a des... En France, tu vois, c'est tellement peu, c'est tellement microscopique, ouais, la scène, que, ouais, en fait, tu finis par traîner avec des gens du crust, avec les gens du post-punk, avec les gens
ça se mélange,
tout court.
Ouais,
ça brasse, en fait. C'est
plutôt positif, ça.
Clairement,
qu'il y a pas des micro niches et quelque part
tout soit cloisonné. Non, tout le monde, enfin voilà, il y a une espèce de, tout est brassé dans le... Dans la même vague, et du coup ça permet de découvrir d'autres choses, de rencontrer d'autres personnes,
ouais,
tu vois.
T'inspirer aussi peut-être.
Oui, aussi.
Par autre chose,
clairement.
Quoi,
ouais.
Fonds, c'est le mettre son spawn partout, en fait. Tu sais, si tu traînes toujours avec les mêmes personnes, t'es toujours avec la même musique, quoi, tu t'enfermes sur un style, quoi, et sur. Enfin, tu tournes en rond, en fait, au final,
ouais,
et t'évolues
pas.
Alors que si tu rencontres des personnes différentes, tu as d'autres milieux, d'autres styles musicaux. Là, t'apprends des choses, alors même si ça match ou ça, enfin, tu vois, ça s'accorde ou pas, tu vois, mais le fait de. Même au-delà de la sphère, tu vois, punk hardcore, que des personnes qui évoluent dans le hip-hop, par exemple, ou dans d'autres styles, en fait, ça te permet d'apprendre des choses, de créer d'autres choses aussi, tu
vois.
Qui
alimente aussi ta réflexion,
ouais,
ou les compositions.
Ouais, exactement, ouais. Exactement, ouais.
Même au niveau des paroles, tu vois, enfin, je veux dire, après, au niveau des textes, enfin, moi, j'écoute pas mal de hip-hop, tu vois, Julien, il aime bien ça aussi. Et c'est vrai que ça peut inspirer de temps en temps, tu vois, de voir un peu... les sujets qui sont abordés, ou bon, voilà, c'est un truc qui permet d'alimenter ta...
Et sur ce côté un peu roots, quoi, hardcore, je sais pas où vous l'avez mis, mais j'ai lu Hardcore is politique. Mm-hmm. Et je trouve que c'est un slogan, mais c'est pas qu'un slogan, et ça résume pas mal de choses, quoi. C'est super important, quoi.
Ouais.
Et je voulais savoir si vous y mettiez derrière ces quelques mots simples, mais qui au final ouvrent pas mal de choses, qui veulent dire plein de choses, quoi, au-delà du slogan, quoi.
Alors, bah oui,
ouais,
clairement, vas-y, Nico.
Bah du coup, enfin, c'était un peu à la base aussi de Woodwork, enfin, là je parle vraiment personnellement, c'est que je savais que bon, j'allais prendre le chant, en fait, et du coup je voulais écrire, j'avais des trucs à dire, Et pour moi, en fait, le punk et le hardcore, fondamentalement, c'est politique, en fait. On peut pas se déconnecter, en fait, de la dimension politique, même si c'est que de la musique, en fait. Et c'est pas que de la musique, justement, c'est qu'on écrit des choses et on transmet des choses et même en dehors d'un groupe de musique, quoi, enfin, toutes les personnes qui s'investissent, comme toutes les personnes qui organisent des concerts, c'est un acte politique au final, tu vois, enfin, tout est politique au final, quoi. Et quand on dit que l'hardcore est politique, en fait, ça paraît tellement banal, en fait. Enfin, ouais, pour moi, c'est banal, en fait. Mais c'est pas forcément banal pour tout le monde.
Finalement, pas tant que ça.
Ouais. Ouais. Et y a plein de milieux. Dans le hip-hop, c'est pareil. C'est le rap, tu vois, on parle de rap conscient ou pas. Enfin, les mecs, ils font, c'est politique aussi, tu vois, parce que tu véhicules des idées, t'écris parce que t'as des choses à dire, forcément, parce que c'est alimenté par un vécu ou autre chose, tu vois, par un contexte politique, etc. Mais, à la base, c'est ça. Enfin, c'était vraiment écrire des choses politiques, quoi, et engagé, parce que bon, voilà, après, on est un peu, on est plutôt au fond à gauche, quoi, on va dire, quoi, et même hors parti, mais c'est que voilà,
totalement
hors parti, mais plus dans la mouvance gauche extrême, perdu au fin fond,
ouais,
noir,
sur les valeurs, ouais, on pourrait dire ça,
dans le noir de la gauche,
ouais, voilà, mais bon,
c'est vrai que quand tu dis que tout est politique. Je trouve ça intéressant parce que au final, on a tendance à invisibiliser quelque part les actes politiques puisque tout est politique. Donc c'est bien aussi quelque part de le rappeler simplement, quoi.
Mais faut se réapproprier en fait le politique, c'est ça en fait.
Ça et puis souvent les gens aussi ont cette image de la politique, l'aspect un peu matériel ou imagé, tu vois, dans le sens où quand on parle de quelque chose de politique, c'est forcément que tu tends vers un parti ou un autre, tout se rattache globalement à la sphère politique française, tu vois, sur le plan des partis et tout ça, comme on disait que nous on était un peu politisés, mais hors parti.
Bien sûr, ouais. Tu vois, je le prenais comme ça évidemment, la politique large.
C'est pour ça, mais c'était voilà, pour les, souvent les gens font souvent l'amalgame en France, parce que c'est ce que je connais, je pourrais pas parler pour d'autres pays, mais en tout cas en France, les gens, voilà, tu dis que t'es politisé, bah, tout de suite, on parle de NPA,
Oui, alors qu'effectivement, voilà. Moi je le vois comme un truc de déconstruction quelque part.
Oui, c'est ça.
Chaque acte de ta vie, même discours, conversation, interaction est politique. Il faut l'avoir à l'esprit.
Sans parler pourtant des réformes scolaires ou autre chose. Juste des choses qui te touchent tous les jours, toi, dans ton rapport à toi-même, dans ton rapport à l'autre.
Mais justement,
c'est beaucoup plus global que ça et moins.
Moins segmenté, quoi.
C'est moins segmenté, ouais.
Ouais, le tous les jours est super important. Votre album s'appelle Violence Ordinaire, quoi. On en reviendra un petit peu, on en parlera un petit peu après, sur ce côté du tous les jours, du quotidien. Je trouve quelque chose d'hyper important, quoi. Et justement, donc, votre parole à travers tes textes à toi, Nico, sont politiques, mais il y a également beaucoup, il y a une autre parole politique. En fond, quoi, sur vos chansons, avec on entend des discours, notamment l'ouverture, c'est
Angela Davis
qui fait l'ouverture du disque, quoi.
Ouais.
Tu peux rappeler un peu, bon, rapidement, qui c'était, pourquoi avoir choisi en particulier.
Ah, mais c'était une activiste américaine, quoi, qui est, alors je vais pas dire de bêtises, j'ai pas envie de savoir s'il y a des spécialistes qui écoutent, je crois qu'elle est sociologue ou anthropologue, je sais plus exactement, mais en tout cas elle est très engagée dans la lutte féministe et après dans le droit
afroféministe,
voilà, du coup elle est
partie Black Panther,
ouais, c'est ça,
marxiste,
ouais, bon, plus tendance marxiste en fait, ouais, clairement pas trop anarchiste, mais voilà, après c'est des valeurs qu'elle véhicule, quoi, qui sont et les discours qu'elle fait, la réflexion qu'elle a aussi sur le mouvement mouvement féministe, le mouvement des noirs américains, qui est génial en fait. Et du coup j'étais tombé par hasard, en fait, je fouillais un petit peu, enfin, je tombais par hasard sur une interview justement de, je crois que c'était un pasteur qui l'interviewait sur, c'était assez intéressant de voir un peu le clivage, enfin, bon, entre la religion et le marxisme, enfin, bref. Et du coup, en fait, je trouvais ça vachement intéressant ce qu'elle disait, quoi. C'est, un discours très général, mais en fait, très, enfin, poussée émancipatrice, en fait, tu vois. Et je trouvais
qui ouvrait des portes à la réflexion.
Ouais, clairement, tu vois, c'était la grosse introduction, en fait, un peu, et je trouve ça vachement intéressant de
ça. Ça permet pour toi, en tout cas, vous, d'ancrer votre pensée, quoi.
Ouais,
ça permet,
aussi, ouais, c'est ça.
D'avoir et des liens, je suppose, quoi.
Nous, comme ceux qui peuvent écouter ou qui peuvent s'intéresser, enfin, un peu au fond de l'album, quoi, tu vois.
Ouais.
C'est une porte aussi qui permet, au-delà de l'album, peut-être des petites portes.
Et là, clairement, c'est plus le discours qu'elle fait. Bon, même s'il y a une idéologie derrière, en fait, bon, elle est, comme tu disais, marxiste, tu vois, mais c'est pas comment dire, nous on, enfin personnellement moi je m'ancre pas dans l'idéologie marxiste, clairement pas. Mais après ce qu'elle, les discours qu'elle fait sur le l'émancipation en fait des noirs américains ou des femmes quoi, ça c'est quelque chose qui est un peu on va dire universaliste, mais bon.
Mais c'est voilà, c'est qui vous
enfin, ouais, ouais, qui paraît un, ouais, ouais, voilà. Qui nous paraît important et complètement actuel quoi, là, notamment ouais. Maintenant avec tous les mouvements qu'il y a Black Lives Matter tous les mouvements là pour les femmes hein, qui sont bon, qui tapent un peu du poing sur la table pour renverser la vapeur quoi.
Donc là en fait c'est l'ouverture de l'album, donc on va passer un titre, on va rentrer un peu dans l'album, dans les thématiques de l'album, notamment la violence moi qui m'a pas mal inspiré quoi. Donc on va écouter un deuxième titre qui s'appelle Non pas une clean. Tu as bien fait de me faire remarquer. Alors je change en fait, il faut mettre un R quelque part. Donc on va s'écouter le deuxième titre, Unlearn. Ça parle de.
Ben là, ça parle justement, on parlait de féminisme. En fait, ouais, ça parle de.
C'était fait exprès.
Ah ouais, t'avais préparé
pour
tes fiches.
Le lynx.
Ben en fait, c'est c'est un morceau sur le rapport domination sexiste. En fait, le patriarcat. Que ce soit aussi bien dans la société que dans la scène hardcore aussi. Enfin, voilà, on n'est pas non plus dans un milieu hermétique, quoi. Non, et tu parlais aussi de ce côté de déconstruction, en fait. Et clairement, là, c'est quelque chose qu'il faut faire au quotidien, en fait. Et justement aussi le côté du jour, enfin, jour après jour, tu vois, dans nos comportements personnels, en famille, tu vois, dans la scène hardcore, entre nous aussi. C'est arriver à déconstruire aussi ces rapports qu'on a et, enfin. Nab a beaucoup écrit aussi sur ce texte, en fait, il a quasiment écrit la moitié des trois quarts, en fait, et dans les explications, en fait, c'est le côté de, on évolue, nous on est des hommes blancs, enfin, en Occident, dans une scène hardcore qui a dominante masculine et blanche.
C'est la dominante blanche,
Du coup, en fait, ça arrive à se remettre en question et justement à arriver à déconstruire ces rapports de domination pour justement, voilà, mais ouvrir des perspectives, tu vois, et au moins. Pas rester enfermé dans ce côté très masculin, tu vois. Et,
on en parlera un peu, j'avais une question là-dessus. Quoi.
Ouais, je m'emballe pas trop.
Un peu de suspense. Donc, Unlearn. We'll be right back. Oui, donc de retour à la violence. ouais, c'est ce que j'étais en train de te dire sur vraiment cette synthèse parfaite, je trouve.
Merci.
De l'album et puis même de ce qu'on peut vivre et subir un petit peu
au quotidien.
Ouais, au quotidien de façon différente en fonction évidemment de qui on est, notre parcours, etc. quoi. Et voilà, j'ai fait rapidement ce qui me venait à l'esprit au niveau des formes de violence, puisque voilà, la violence, c'est un
concept global,
fond,
ouais,
quoi,
ouais.
Un champ hallucinant, quoi. Et puisque les violences peuvent être voilà, subjectives, symboliques, bon, physiques évidemment, même l'espace public peut créer de la violence à travers l'urbanisme, tu vois, sur pas mal de enfin bon, la gentrification, etc. Bon, il y a des violences institutionnelles. La violence bon, liée au monde du travail, évidemment, à travers la hiérarchie, les violences économiques, classistes, les violences intimes, carcérales. Donc c'est vrai que y a des milliards d'exemples, malheureusement, quoi. Et voilà, en regardant un petit peu, il y a une théorie qui est très juste, je trouve, je sais pas, tu vous en parlais, enfin voilà, qui démontre en fait que justement toutes ces micro-violences, là on part sur des micro-violences, ce qui a été un peu enfin voilà, imaginé comme des micro-violences,
ouais.
Par leur répétition en fait tout au long de ta vie, quoi, de l'enfance à l'âge adulte, par leur répétition sont totalement intégrés en fait, mm-hmm. tu vois, dans des habitudes, surtout.
Ouais.
Là, la thèse est vraiment liée au monde spécifiquement du travail, mais c'est assez vrai. Et donc, à force de les répétitions, ces micro-violences, tu les trouves, enfin, toi, tu les intègres, tu les trouves presque banales, communes, tu les remets absolument plus en cause, quoi. Donc, ça permet, en fait, d'un côté, d'être productif et performant, quelque part, tu vois, et en même temps, d'être soumis et aliéné, quoi.
Totalement, ouais.
Donc, c'est.
Ouais.
Donc, je sais pas si tu.
Ouais, ouais, mais même après, en plus, le fait de les avoir. Enfin, vu que ça nous construit, en fait, depuis l'enfance, tu vois. Les parents, même s'ils le font pas volontairement, tu vois, enfin, ils transmettent certaines valeurs, on va dire. Mais je pense qu'après, même après coup, tu vois, cette violence-là, tu la retransmets indirectement. Enfin, directement, ouais. En fait. Mais sans que ça te paraisse, en fait, violent, quoi. Comme tu disais, tu vois, c'est des micro-violences,
ouais,
en fait.
Tout à fait. Ouais, t'es toi-même. Bourreau,
ouais,
c'est peut-être un peu fort, quoi,
mais en fait ça te paraît normal, en fait c'est un peu, ben en fait c'est ça, en fait c'est l'individu, en fait, crée la société, mais en fait toutes les normes qui sont construites dans la société, elles sont aussi elles te construisent aussi, donc du coup vu que c'est une norme en fait sociale, quoi, la violence sociale est là aussi, tu vois, c'est que t'es bassiné dans un ouais, c'est une habitude, tu vois, enfin t'es un peu dans le quotidien, de
ouais,
du comportement,
immergé, tu remets plus en cause,
ouais.
Et d'ailleurs, est-ce que vous avez des exemples, vous, de violences personnelles que vous avez subies, aussi bien physiquement ou symboliquement, puisqu'on parle là-dessus, des exemples, si vous avez des exemples.
C'est des violences lambda, hein. J'ai pas eu moi, l'impression d'avoir subi quoi que ce soit, mais c'est souvent de la pression, peut-être la pression sociale, pression au travail, la pression familiale. Comment dire, c'est difficile à resserrer l'étau, dans le sens où est-ce que c'est la pression qui génère une violence, est-ce que c'est la violence qui génère une pression? Et inversement, tu vois, c'est difficile de...
Ouais, c'est pas évident.
Non,
T'as pas d'anecdote, par exemple, ou...
Précise.
Je sais pas. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'en fait, la violence, elle est là dès que ça porte atteinte à ta liberté, en fait. Enfin, après, on peut exagérer, mais je veux dire, c'est que... dès que... Enfin, l'individu a envie de... Enfin, tu t'aspires à plus de liberté, et du coup, dès qu'on te met plus de barrières, en fait, que ce soit... législative, tu vois, ou même dans des comportements qui vont t'oppresser, tu vois. Mais pour moi, ça, c'est de la violence, en fait. Mmh. Après, elle a des degrés différents, tu vois, il y a des degrés différents de violence, quoi. Mais, comme tu disais, la pression familiale, tu vois, pour l'éducation, par exemple, tu vois, enfin, on t'apprend des trucs. C'est pour certains.
Son éducation, tu vois.
Ouais. Enfin, moi, j'ai pas vécu ça comme une violence, mais il y a certaines choses, quoi, qui. Je sais que, enfin, le parcours d'éducation, en fait, l'éducation va paraître super violent pour certains gosses, en fait. Parce que ça leur correspond pas du tout, et du coup ils vont être rejetés. parce qu'ils ne correspondent pas aux standards et à la norme justement du système d'éducation en France en particulier.
Éducation familiale, tu parles hein,
éducation familiale, mais même éducation scolaire, scolaire quoi, ouais, vraiment.
Ouais, l'éducation dans le sens général du terme.
Okay, sens large. Mmh.
Mais après, c'est le rapport aussi, enfin, au quotidien, c'est le rapport, enfin, les dominations masculines, tu vois, enfin, sur le. Des blagues, enfin, des comportements avec des filles, tu vois, ou des, ce côté-là de, pas de mépris, mais, de, ben, en fait, c'est normal de faire des blagues sexistes, tu vois, mm-hmm. parce que c'est de la culture française ou, tout simplement parce que c'est des hommes, en fait, c'est même pas propre ouais, à la culture française.
C'est l'humour oppressif, quoi, en fait.
Ouais. Mm-hmm. Et même par rapport aux animaux, tu vois, enfin, genre, c'est, ben, la violence, enfin, elle est là aussi, tu vois, et je pense que le, enfin, après, on peut tous en parler, mais, t'as la violence, tu te rends compte en fait de ce que t'as fait, enfin, ce quoi t'as participé pendant des années, enfin, quand t'étais pas végétarien ou quoi que ce soit. Mais tu te dis, ouais, c'est vrai qu'on a, on en est perpétuellement en train de dominer, de d'assouvir, tu vois.
Consciemment certaines... comme inconsciemment, mais de toute façon, t'es toujours à un moment ou à un autre responsable de quelque chose qui peut toucher toi-même comme autrui, hein, parce que tu peux aussi te t'auto-violenter entre guillemets ouais. Et puis par ce biais du coup
t'auto-violenter ça veut dire
non mais suicide quoi clairement enfin,
bah, ça c'est le terme c'est pas un... ce non mais tu sais te comment dire c'est délicat à dire mais je pense sur le plan psychologique ouais, tu vois peut-être te rabaisser c'est des comportements
okay, ouais on est vraiment dans une forme de violence aussi extrême envers soi-même de toute façon.
Ouais, bien sûr. Qui est les facteurs.
En fait, tu t'excuses quelque part par ton comportement vite fait d'agression que tu subis quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Tu déportes aussi tu balayes dans ta porte et tu peux mettre chez le voisin. Enfin, c'est bête, mais c'est les choses que tu peux ressentir. Donc tu peux faire un blocage, le déplacer. Mais après c'est tellement généraliste comme concept que tu pars, enfin c'est très
c'est,
difficile
c'est
à,
large, quoi.
À arriver à quelque chose de concret dans l'explication okay. quoi.
Et vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure justement sur la prédominance des mecs blancs dans la scène et notamment la scène hardcore qui a quand même cette image que je trouve pas si stéréotypé comme ça, malgré tout de mecs assez violents malgré tout même dans les concerts des attitudes des trucs un peu de testostérone et tout vous ouais. qui avez un peu réfléchi à ça voilà entamé une espèce de déconstruction et par rapport à la violence et tout ça quoi comment voilà genre pendant un concert est-ce que vous pouvez je sais pas aller à l'encontre de ce genre de comportement par exemple est-ce que vous ça vous vient à l'esprit même ou tu vois
bah, on a jamais été confronté
ouais. Bon, c'est déjà arrivé une fois ou deux mais expliquer gentiment qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent ne pas se prendre de pied dans la tête ou autre quand ça commence à danser un peu dur quoi ouais. Mais voilà,
c'est vrai que le hardcore ça véhicule quand même cette image malgré tout
ouais bien sûr ouais ça fait partie dans un sens enfin ça arrive en même temps que la musique ouais effectivement c'est ça c'était un peu le défouloir quoi donc voilà il y a tout ça qui est arrivé en plus de l'aspect musical t'as l'aspect un peu danse qui s'est joint à la fête quoi et donc ouais forcément des fois ça peut déborder comme dans tout quoi t'as toujours
et vous avez ça à l'esprit parfois ou genre quand vous jouez ou vous êtes attentif ou vous considérez que c'est
ça dépend ouais mais ça dépend où on joue en fait ouais. Après tu sens que t'as certaines personnes qui ont envie vraiment de mocher comme des fous, quoi, de se lâcher. Ouais. Et d'un côté, ils ont raison, tu vois. Enfin, genre, après, c'est juste que t'as besoin d'exprimer un truc, quoi. Enfin,
ouais,
t'as un truc en toi, tu l'exprimes, quoi.
Ouais,
après, faut trouver l'équilibre, justement,
voilà,
tu vois. Enfin, ça, c'est très codifié aussi dans l'hardcore aussi, tu vois, ce côté moche. Enfin, les mecs qui vont mocher, t'as les punks, oi, qui vont danser, mais qui vont pas mocher, ça va être différent. Du coup, ça va se fondre,
oi, ils croisent pas les bras.
Je sais pas, ils font pas trop de karaté, mais.
Non, c'est pour l'autre.
Ah ouais, je sais pas. Enfin, c'est compliqué après d'arriver à. Enfin, du coup, t'essaies de cohabiter aussi dans le pit, quoi. Enfin, ouais. Et après, il y a des mecs qui se prennent des coups, des filles qui se prennent des coups, et des filles qui donnent des coups aussi. Bon, ça arrive, tu vois. Mais c'est vrai que c'est. Ouais, je sais pas, moi je rate pas trop, des fois je regarde, mais
après,
c'est vrai que
ouais,
toi aussi, sûrement dans ton.
Y a pas non plus 500 personnes quand on joue,
ouais.
Et puis c'est souvent dans des squats ou autres où les gens sont quand même plutôt respectueux
ouais.
Les uns vis-à-vis les uns des autres. Donc non, c'est vrai qu'on n'est jamais trop confronté à ce genre de situation.
Il
n'y
a pas 5 morts et 10 grands blessés.
Non,
on
n'est pas au Hellfest.
Même après, dans les concerts, je sais pas, quand ça bouge vraiment, quand il y a du monde, t'as des mecs qui vont faire qui vont sauter de la scène, quoi, et tu vas te prendre un coup de pied à la tête, tu vas prendre des coups dans les côtes. C'est pas cool, tu vois, sur le moment, mais après, toi, potentiellement, tu vas en donner sans le vouloir vraiment. Parce que t'es pas là pour te friter avec les gens, mais ça fait partie. Après, c'est mieux punk hardcore aussi, tu vois. Enfin, t'as. Et je pense que si tu veux pas, tu te mets derrière en fait et tu.
T'as l'aspect un peu cathartique du truc où les gens se lâchent.
Mais moi, je préfère quand les gens sont bien devant la scène, tu vois, comme ça. Ceux qui veulent danser, ils sont derrière.
Ouais.
Et les gens qui veulent kiffer, tu vois.
Ouais, tout à fait.
Parce qu'après, t'en as qui veulent écouter mais qui veulent être devant. Après, ceux qui veulent danser, ils ont pas besoin de se mettre devant ou derrière, ils se mettent où ils veulent et. Ouais. C'est comme en boîte de nuit, je sais pas, je vais jamais en boîte de nuit.
Bon exemple. Sans transition, comme on dit, une violence que je trouve hyper intéressante, quoi, sur le vocabulaire, parce qu'on parle que les mots peuvent être aussi violents, blessants. Y a toute cette violence, je trouve, du vocabulaire technique et des spécialistes, en fait, qui interviennent un peu partout, tout le temps, quoi. C'est un peu ce qu'on a appelé la novlangue, en fait. T'en as parlé un petit peu dans un texte, notamment en parlant du développement durable, qui est un concept un peu qui permet de valoriser l'économie, un truc. Capitaliste, quoi. Je pensais aussi qu'on dit plus par exemple les ouvriers mais les collaborateurs. Ça permet de nier toute l'existence de la lutte des classes, tout simplement. C'est super pratique, quoi. Tu vois, un mot te fait disparaître des millénaires de lutte, quoi. Donc je sais pas si vous avez des exemples, si vous voulez parler un petit peu de cette novlangue qui est quand même hyper.
Tous les concepts qui sont issus du capitalisme vert, en fait, tu vois, le développement durable, c'est ça, quoi. Tu repeins les murs en vert en disant regardez c'est cool, on continue de la même manière mais visuellement c'est quand même meilleur, quoi. McDo, moi, tu vois, c'est un truc qui m'avait choqué une fois. Le logo était rouge avant, maintenant il est vert, tu vois.
Et Ronald a disparu.
Ouais, carrément le clown.
Ouais, ça paraît con, tu vois, mais clairement, enfin le marketing, c'est du marketing.
Mais c'est l'imagerie, mais ça a toujours fonctionné de pair après.
Ouais. Et à la base, tu vois,
sauf que les standards changent et du coup le marketing s'adapte. Et inversement, chacun s'adapte, tu vois, le marketing change avec un pas d'avance, du coup c'est la population qui s'adapte, et puis quand la population vire de bord, hop, c'est le marketing qui se met à jour et qui ensuite reprend la barre pour de nouvelles aventures.
Mais le capitalisme vert, moi je pensais à ça, tu vois, c'était
le greenwashing, quoi.
Ouais, le développement durable, en fait, c'est arrivé à la base, c'était le rapport Brundtland, enfin c'était même avant. En 72, en fait, c'était le halte à la croissance. Et c'était assez fort quand même. Après, bon, il n'y avait pas de remise en cause du système, enfin, de domination, etc. Mais c'était vraiment, économiquement, c'était quand même assez fort. Et ça a évolué progressivement de conférence en conférence pour arriver à. On ne savait pas s'ils avaient parlé d'éco-développement ou de développement durable, en fait. Ils se sont dit, c'est cool, développement durable. Ouais. Le développement, c'est comme la croissance, on continue. Et on repeint les murs en vert et c'est reparti, quoi.
Ouais, durable, ça permet que ce soit supportable, quoi.
Mieux le vendre, quoi. Dans l'étymologie, non, tu vois, durable, c'est que ça dure dans le temps, tu vois. Donc, si tu appliques le développement comme de la croissance, fais perdurer et tout le monde est content, tu vois. Mais, je trouve ça tellement pourri que, enfin, c'est. Et tout le monde l'applique, en fait. Enfin, c'est notre ouvente, quoi.
C'est ce qui ressemble le plus, là, dans les lignes, dans les grandes lignes, à une porte de sortie, quoi. Ouais. C'est juste ça, quoi. On est au pied du mur et c'est ce qui donne un peu d'espoir, parce que c'est l'espoir qui fait vivre, quoi.
L'espoir fait vivre.
Il paraît, ouais.
Et sur l'utilisation de ce langage dit bienveillant, quel est ton sentiment, moi, à toi ? Désolé, mais comme c'est Nicolas qui écrit les textes.
Ouais,
en marche, je pense que vous avez.
C'est moi, j'ai compris, je me casse.
Tous des idées, je pense, au niveau des thèmes, mais justement sur l'idée d'écrire sur des oppressions que tu subis pas, quoi. Je voulais savoir si tu avais ça en tête, quoi, au niveau. Au-delà de la légitimité, quoi. Mais genre juste, est-ce que toi, ça te referme des champs, tu vois, de te dire, par exemple, tiens, ça, je me sens pas légitime à parler de cette oppression parce que je la subis pas, quoi. Parce que tu fais un groupe, faut faire des textes et ça permet d'aller vers des.
Si tu vis pas une oppression, je pense qu'après tu peux la comprendre, quoi. Enfin, si t'as un minimum d'empathie, quoi, tu vois qu'il y a une oppression, tu sais pas. Peut-être fondamentalement comment la personne va vivre cette oppression-là. Enfin, moi, je parle direct par rapport à la lutte féministe, tu vois. Enfin, je peux pas mettre à leur, enfin, je peux potentiellement mettre à leur place, mais je ne fais pas savoir ce qu'elles vont ressentir au fond, tu vois, quand il y a une agression, quand tu te fais emmerder dans la rue, quand tu es victime de petites piques, tu vois, ouais, bidons.
Rabaisse.
Tu vois, enfin, c'est un truc quotidien, c'est qui te pique, enfin, ça, tu, enfin, moi, personnellement, je le vis pas, tu vois. Ouais, par contre, je peux le comprendre, tu vois, et après, tu essaies d'apporter ta portabilité, tu vois, pour dire, ben, les mecs, en gros, fermez vos gueules, quoi, et changez votre manière de.
Tu restes un, ouais, t'as un allié évidemment potentiel, quoi, mais au niveau de tu vois, des thématiques, quoi, des thèmes, toi, ça ouais. te réduit pas ton spectre, tu vois
bah, je veux dire, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais je pense qu'il y a des luttes qui vont te parler plus que d'autres, par exemple, ouais. Et moi, je suis plus axé environnement, enfin, ça m'a toujours plu, en fait, tu vois, les mouvements indigènes, par exemple, mais il y a plein de thèmes, en fait, qui vont... Je vais pas me sentir à l'aise parce que je vais pas maîtriser, j'aurais pas lu, j'aurais pas, je me serais pas intéressé à fond. Mmh. Et même si on s'intéresse jamais à fond à quelque chose, tu vois, mais il y a des thèmes que j'évite, quoi, en fait, parce que je sais que je vais pas être inspiré pour écrire ou ça va pas, je vais pas arriver à l'expliquer, par okay. exemple, tu vois. Mais ça n'empêche pas que je sois sensible, enfin.
Ouais, de t'intéresser.
De m'intéresser un minimum, tu vois. Mais c'est quand même compliqué, ouais, d'écrire des trucs, de se sentir légitime, je sais pas.
La légitimité, c'est compliqué.
Ouais, bien sûr.
Enfin, il y avait le texte sur le génocide des Juifs, tu vois. Enfin, la seule légitimité que j'avais, c'était ma grand-mère, quoi. Mais voilà,
ouais,
tu
mais
peux
mais
pas.
Pour...
Faut en parler.
Là,
tu
l'es légitime quelque part.
Ouais, ouais, enfin, mais je veux dire, est-ce que t'es obligé d'avoir vécu une oppression pour en parler,
voilà,
tu vois,
c'est un peu le sens de ma question. Parce ouais. qu'il y a tout un mouvement qui n'est pas récent, évidemment, quoi. Mais qu'est-ce sur ce côté, si t'es pas concerné, tu la fermes, quoi. Tu vois ce que je veux dire.
Ouais, ouais, mais
donc,
je pense
quand
que
tu fais un groupe politique. Tu vois, est-ce que ça engendre des réflexions au point d'écrire des textes uniquement sur, tu vois, des thématiques?
Bref, moi je parlerai de rien, quoi. Enfin, en gros, je pense, après, il y a tout plus personnel, comme disait Alex, tu vois, sur le côté psychologique, en fait, tu
ouais,
peux.
Carrément.
Et il y a des groupes qui l'ont fait, il y a des groupes qui ont parlé que de trucs psycho, enfin, parce que, ben, le côté, au final, le côté politique, quoi, ben, si t'es blanc, enfin, je dis, moi, quand t'es blanc occidental, quoi, t'as pas grand chose à dire, ben, en fait, t'es dans un pays, quoi, qui est, t'es en position de force, clairement.
Ouais, t'es privilégié, quoi.
Ouais, t'es privilégié. Ouais, ouais. Et ça, je pense que c'est check tes privilèges, tu vois. C'est, tu sais où t'en es, tu
bien
vois.
Bien sûr. Et au moins, dans la continuité de ça, c'est pas parce que t'es aussi dans ce cadre-là que t'as pas le droit d'essayer de comprendre les autres et puis toi, de t'ouvrir un peu aux autres pour, à ton échelle, essayer de faire bouger les choses, quoi. Sans ouais. pour autant qu'il y ait la paix dans le monde et autres, mais. Essayer, voilà, au quotidien, du fait que tu sois en lien avec des gens, ton entourage, que ce soit le milieu du boulot, que ce soit tes amis ou quoi, de faire changer mentalité, quoi. Par exemple, nous, en tout cas, ce qui est le plus probant en ce qui nous concerne, c'est tout l'aspect un peu antispéciste. Tu vois, il y a 10-15 ans, les choses, nous, on les voyait d'une autre façon parce qu'on a été éduqués de cette façon-là, d'avoir une alimentation carnée, de vraiment faire le distinguo entre les espèces comestibles et celles qu'on peut cajoler. Et tu vois, justement, d'avoir été confronté à ça, alors que ça vient pas de notre milieu, ça nous a ouvert des portes, ça nous a permis de s'engouffrer là-dedans et de ce fait de s'y intéresser et puis de devenir antispéciste à notre tour, quoi. Et ça, à notre contact, d'autres gens le sont devenus, c'est sporadique, quoi. Donc c'est, je pense.
Et vous êtes tous antispécistes dans le groupe?
Ouais, tous. Ouais.
Et d'ailleurs, merci Philippe, parce que c'est lui qui m'a converti, c'est le gourou.
C'est le boss antispéciste.
Non, mais voilà, enfin vraiment, mec, bon, voilà. Enfin, moi, je suis devenu végétarien après vegan grâce à Philippe, tu vois, par rapport à. En fait, c'est ça, le fait de. Tu transmets une. Enfin.
C'est toi,
conviction,
c'est,
ouais, quoi.
Et
après, les gens, ils adhèrent ou pas, tu vois, mais bon, après, t'as fait ton travail, enfin. Mais, ouais.
C'est ça, tu donnes un peu le goût aux gens de s'intéresser aux choses,
ouais,
et puis
par l'exemple, c'est super important de toute façon, je pense.
C'est clair. Et du coup, ben voilà, et puis tu remets les choses en question, quoi. Au bout d'un moment, tu fais, ah, c'est vrai quand même qu'il y a ici, ah, c'est vrai qu'il y a ça. Non, là, quand même, c'est chaud. T'as, j'avais jamais pensé. Puis après, hop, tu finis par tirer toute la corde et puis t'as le poteau rose de l'autre côté, quoi.
Ouais.
Voilà, c'est un peu imagé ce que je dis, mais c'est en pratique, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Pour ça, la légitimité, je sais pas si ça a vraiment un rôle à jouer dedans. Peut-être dans l'explication de cas concrets, tu vois, effectivement, ça, la légitimité est importante parce que ça permet d'appuyer tes dires. Mais après, sur des concepts quand même. entre guillemets positif, tu vois, donc tout ce qui est évite toutes sortes de discrimination et justement de violence quotidienne, parce que la violence elle transite aussi par la discrimination, ben ça permet de revoir un peu les choses à la hausse et d'évoluer, quoi. Légitime ou pas.
Bah, je pense qu'on peut écouter un titre ouais. de votre choix, de votre discothèque.
Alors,
personnel.
On va rester dans le style woodwork. Après, on évoluera, j'imagine. Mais il y a un groupe qui s'appelle One Weight. C'est du. Est-ce que tu l'as, Philippe? Ça s'appelle Killer of the Soul. Et donc c'est Nab qui j'espère qu'il nous écoute, sinon c'est pas cool.
il a pris de vos nouvelles ou c'est lui qui
il a pas, non. Non,
bizarrement il prend de nouvelles.
Il sait même pas si on est rentré en vie de Dijon, mais voilà, si, bon là on est là, c'est cool.
Dis-lui, il est bien rentré de Dijon quand même.
Ouais, il est bien rentré de Dijon au cas où ça t'intéresse.
Ouais, on est bien rentré tard, tôt, ou je sais plus, mais ouais. Et ouais, donc du coup c'est Killer of the Soul, et c'est des groupes qui nous ont influencés musicalement, et aussi au niveau des paroles.
Ouais,
pour
au niveau des paroles,
paroles,
clairement, parce que c'est des paroles, enfin c'est des groupes qui ont vraiment un intérêt à apporter du sens dans leurs textes, quoi. C'est très... Ça ouvre des portes, tu vois, on super. Parle d'ouverture de portes, One Way fait partie de ce type de groupe, quoi.
Ouvrons les portes et cassons les fenêtres.
Allez. Ouais.
Bah, juste pour purement technique, c'est quel numéro?
C'est 06. C'est super technique.
Ah, il y a un numéro.
j'ai un 06, là, Broken Record.
Ok, non, c'est 108, Killer of the Soul. Est-ce que tu as ce morceau dans le disjockey?
Voilà, c'est bon.
Allez,
bon, parce qu'en fait, il y a une procédure pour les mettre.
108, c'est un groupe.
Ouais, il a fallu quand même 6 mois pour la prendre.
Ah, c'est ça,
oui,
d'accord.
C'est One Way, okay, enfin, 108, mais ouais, okay, c'est.
Ok,
d'accord. Sorry,
j'ai cru que c'est le nom de la plage.
Non.
Ok.
Thank you.
Voilà, on peut descendre du bus 108.
C'est 8.
Alors le 108, il fait gare, centre-ville,
il dessert tout.
Temple Krishna,
la maison Bichnou.
Je ne sais même pas si cette blague est déjà sortie auparavant sur les ondes radio, radiophoniques. La blague du bus 108, je sais pas, mon dieu.
Et le donc le titre de l'album qui n'a pas changé depuis, c'est Violence ordinaire, et donc ça met un peu en opposition deux idées fortes, d'un quelque chose à laquelle on ne devrait pas s'habituer, à savoir la violence et le côté ordinaire, donc le côté quotidien banal, ouais voilà, qui rend banal quelque chose à laquelle on ne devrait pas s'habituer, quoi. Oui. Et dans un texte tu parles aussi, justement, je crois, c'est sur le libé animal, quoi. Oui. De comportements comme l'apathie, la paresse, la léthargie, comment faire après, voilà, pour lutter, mais concrètement, contre ce sentiment comme ça, un peu des épaules qui tombent vers l'avant, et tu vois, et t'avances un peu. Deux, trois idées, un truc, de lutte.
Pédagogie déjà. Voilà. Pédagogie, pas besoin de. Parce que justement, dans le milieu antispéciste, souvent ce qui est reproché au milieu antispéciste, c'est qu'il est très moralisateur et accusateur. Tu vois, il y a un petit aspect. Je te montre du doigt, toi tu fais rien pour la planète. Hein. Ça, je pense que ça braque plus les gens qu'autre chose. Forcément, quand on te tombe dessus pour te dire que t'es un violeur et que t'es un meurtrier,
ouais,
ça donne pas vraiment envie de.
Et là t'es dans la terminologie, c'est ça, un peu le vocabulaire antispéciste,
un peu le reproche qui est fait au milieu antispéciste, okay, de la part des carnistes, hein, ouais, justement, parce
viande
que
viande égale meurtre,
oui, ouais, voilà, ça c'est après, c'est les standards qui existent depuis des décennies, mais c'est vrai que c'est quelque chose, là, vu que c'est vraiment un thème d'actualité maintenant, vu qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent la question, beaucoup de gens qui deviennent végétariens ou véganes du jour au lendemain, ouais, et qui, ben, justement, par ce fait, se sentent illuminés d'une lumière
libératrice
et
un but,
voilà, tu vois, et
une identité, quoi,
ouais, exactement, et du coup tombe sur le paletot de tout le monde à dire, ah, t'as vu, t'es un meurtrier, t'es un violeur, c'est aux gens, alors que le type faisait la même chose,
c'est tellement des sentiments forts, tu vois, enfin, je pense que t'as le côté émotionnel qui est puissant, en fait, c'est la fleur de, enfin, après chacun réagit à sa façon, mais dans le fond, c'est vrai. Après, c'est quand comme tu disais, c'est la pédagogie, tu vois. Enfin, moi, on m'aurait dit, tu bouffes des sécrétions, ma mère, tu vois, du lait.
Tu bois le lait matin à une autre espèce.
Tu dis, ouais, mais mec, d'abord, explique-moi ce qui se passe, quoi. Après, enfin, c'est sûr que parfois, moi, je pense aussi que la violence des mots, c'est bénéfique, en fait, parce que ça va faire réagir des personnes. Après, si tu veux construire dans le fond, t'es obligé de passer par un côté, enfin, par la pédagogie et expliquer le pourquoi du comment. Comme tu disais, Alex, tu vois, enfin, c'est soit tu braques des personnes, soit tu prends le temps d'expliquer les choses.
C'est un système qui fonctionne bien. Hein, c'est braqué, tu sais, tu tombes sur quelqu'un, et moi le premier, hein, tu me dessus. Pareil. En me pourrissant, je me braque et je veux rien entendre, et je ferai strictement le strict inverse de ce que tu
fais. Tu vas te faire un steak tartare, quoi, après la sortie, t'es un connard, c'est bon, me saoules avec tes trucs de végétarien, là.
Non, mais c'est ça, donc je pense, c'est vraiment pédagogique, quoi, et puis pas prendre l'autre pour un imbécile, quoi. Je pense que tout le monde a le droit à sa chance, et tout le monde a le droit de comprendre, quoi, sans pour autant être accusé de tous les maux. Et ça, je pense que c'est valable sur tous les points.
De la pédagogie va au savoir, je dirais, quoi.
Oui, voilà.
Et dans un texte, tu parles justement pour contrer les positions un peu passives par rapport à l'ignorance. Une des résistances peut être justement donc le savoir. Ouais. Donc ça peut venir aussi peut-être de l'éducation, malgré tout. Je sais pas trop
quel
type de savoir. Ouais,
c'est clairement ça, ouais.
Mais après, c'est l'échange, quoi. C'est surtout le savoir, il est. Mais t'as le savoir profane, quoi. Après, t'as les. Soit tu vas soit tu t'intéresses à la question, tu vas lire des articles scientifiques, quoi, des études, etc., ou des rapports, ou autre. Ou t'as juste l'échange, banal, je dirais, quoi, avec ton pote, quoi, autour d'un verre, tu vois, et tu discutes d'un truc, tu fais partager tes sentiments, en fait, juste ça, quoi. Après, la personne adhère ou pas, elle comprend.
Ouais, elle peut être touchée ou pas. C'est ouais. Des paramètres que tu maîtrises pas forcément, mais qui peuvent quand même s'activer au cours de discussions, que ce soit quelque chose de très solennel sur un discours, une conférence, ou juste, comme disait Nico, autour d'un verre après le boulot avec un pote, quoi.
Ouais, les deux fois que je m'en souviens, c'était la fois où on était à un concert au Caravansarai, c'était Philippe avec son stand, tu vois. Mais il y avait Julien, aussi bel bassiste de Woodwork, qui est devenu, le jour où je l'ai vu devenir végétarien, en fait, quoi. Il a enlevé le jambon de la pizza, tu vois.
Ah ouais.
Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, mec? T'es ouf, qu'est-ce que tu fais? Filme-moi ton jambon, tu vois.
Fondateur, quoi.
Ouais. Mais et du coup, en fait, tu vois, c'est juste des comportements. Je pense que c'est des personnes que t'aimes, en fait, qui vont agir d'une certaine manière et tu comprends pas pourquoi. Et elles vont t'expliquer, et du coup, tu vas dire, ah ouais, je comprends, ça me parle et tout. Et...
Ou tu comprendras pas, peut-être, du coup, sur le coup, pas, ouais. Et puis c'est une petite graine, ouais, qui est plantée, ouais. Et qui fait son, enfin, et puis ça fait son chemin, quoi.
Et justement, pour contrer cette. Élargir le cercle, quoi, cette petite musique qu'on entend sur le capitalisme, etc., il y a certaines places qui sont bonnes à occuper. Je sais pas si. Je sais pas, il n'y a pas des gens qui sont à la fac, qui bossent à la fac.
Si.
Donc c'est aussi peut-être.
De quoi, qui bosse à la.
Ouais. Toi et Julien, par exemple.
Ah oui, ouais.
Je sais pas si tu donnes des cours ou.
J'en donne plus, ouais, mais j'en ai donné. J'en ai
donné. Donc en tout cas, tu occupes une place qui te permet aussi, peut-être, tu vois,
oui,
vraiment d'élargir, tu vois, en tout cas.
De transmettre, ouais.
Voilà, oui. Peut-être pas de parler d'anticapitalisme radical, mais je sais pas trop.
Non,
mais...
clairement pas. Après, non, enfin.
En tout cas, d'être bienveillant, d'avoir, tu vois, et dans le vocabulaire et dans l'attention à l'autre. Et c'est bien aussi d'occuper ce genre de.
Ouais, enfin après, t'es dans ce côté d'échange, en fait, qui reste le même au final, tu vois. Enfin, pareil, on pourrait parler de la violence dans l'éducation et dans le rapport,
ouais,
que t'as avec
fait,
les,
ouais,
étudiants, tu vois, les étudiantes, quoi.
Ouais.
Mais c'est vrai que tu transmets, même si t'as une ligne directrice, on va dire, qui est donnée par le corps enseignant, après, tu peux quand même t'accorder certaines libertés et aborder des postures, proposer des postures critiques, tu vois, pour justement provoquer les étudiantes, tu vois, à se poser des questions autres que le truc classique de géographie classique, tu vois, ou enfin,
ouais, la scolarité, tu veux dire.
Ouais.
Tu faisais quoi, de la géographie?
Ouais.
Trop bien.
Donc voilà, tu vois, enfin, ouais, c'est je pense que l'échange, c'est
Non, j'en pensais, ouais, qui se foutait de ta gueule en t'appelant le géologue.
T'avais une carte, une grande carte derrière toi avec une règle en bois
ou... Non. Il y avait une carte, ouais, mais j'avais pas de règle en bois, quoi. Non, mais ouais, je pense que c'est super important, tu vois, d'aborder des sujets, surtout le, je pense que c'est le côté critique, en fait, au-delà des thématiques, ouais, c'est vraiment t'as un discours dominant, je pense qu'il faut à chaque fois remettre en question ce qu'on te dit, quoi. Ça rentre dans la parano, tu vois, ou tout remettre en question, mais je pense que le critiquer le savoir universitaire et tout ça, je pense que c'est fondamental, quoi. Enfin,
puis c'est plutôt sain, ouais, même.
Ah ouais, il faut, quoi. Ben, au moins tu te fais ton avis, tu vois, enfin, c'est bien d'avoir des avis, tu dis ok, ça, moi ça m'intéresse, mais c'est quoi les avis contraires, tu vois, pour voir. Et ça, ce qui m'engonfle un peu aussi en politique, c'est que ce que tu disais, tu vois, t'as le côté, t'es à gauche ou à droite, quoi, t'as un mec à droite qui va dire un truc, ben, les mecs à gauche ils vont dire ouais, c'est de la merde. Ben ouais, pas forcément, tu vois, enfin, sans dire que j'adore.
Il y a pas contradiction idéologique, mais ouais. Pas forcément.
Ouais,
pas...
Alors, ça, en fait, c'est juste une bataille rangée, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça.
Voilà, donc critiquez-vous et critiquez les autres, mais en restant cool, quoi.
Bon, mais on va refermer cette thématique de la violence, pas avec un titre choisi.
Oui.
Avec,
Je choisis.
Je sais pas.
Où t'as choisi, Nico?
Non, j'ai pas choisi.
On
Alexandre.
Peut mettre le morceau de Still Alive.
Allez.
Avec plaisir. Ah, ça, c'est un très bon choix.
J'ai conquis le cœur du patron. Ouais. Alors, le morceau, c'est un morceau de Still Alive, un groupe emo américain des années 90.
Je souris d'avance.
Jubile, quoi. Oui.
Alors, le morceau, il s'appelle Sweet Demise. Justement, on parlait de violence. Voilà, infligé, et là c'est violence toi contre toi, quoi. Donc vraiment introspective. Voilà, ce morceau s'appelle Sweet Demise, il était sur l'album Maness and the Gackle, sorti chez le label qui faisait le fanzine Heart Attack.
Ebullition.
Ebullition, ouais, ouais. Records, exactement.
DJ.
Morceau, c'est quoi déjà?
Sweet Demise.
Okay. Pas dans l'ordre, du coup, faut que je les retrouve.
Je suis désolé, Philippe. Impec.
Go.
Sunflower. Christophe, c'est Sunflower Records ou Recordings.
Ouais, bon, en fait, ouais, pour
j'allais le dire, t'as envoyé un message.
On a le patron qui a écrit, il a dit, écrit au scandale en plus. Donc fais gaffe.
Au scandale.
Eh, tu
me sangleras samedi. Tu verras quand je te renverserai la limonade sur tes chaussures.
Non. Arrête, il va pas sortir le prochain LP. Ouais. Si, allez.
Si
c'est
tu
bon.
Me vires, il le sortira. Oh, mais,
c'est l'occasion d'en parler alors, puisque là. Il y a du forcing pour qu'on parle de,
ah oui, ouais.
De
oui,
l'anniversaire.
Parce qu'en fait, il va faire une émission de... juste parce que.
Ouais, c'est ça, il a jamais. Mais il répète pas ou quoi? C'est pourquoi il est pas ici?
Ça
je comprends
fait une
pas
heure
ce
j'écoute
truc,
des
quoi.
Conneries et là, j'aimerais bien qu'on parle de mon anniv, quoi.
Il cale les répétitions là, pour pas là, venir, je... quoi. Il veut pas venir et là, il écoute. C'est incroyable, ça.
Non, mais c'est bien.
Je le sens énervé.
Il fait ses devoirs, là.
J'arrive à sentir l'énervement.
En fait, il écoute les groupes du label, c'est ça. Bon, alors, qui j'ai signé?
Parce qu'ils disent des bêtises.
Ouais, voilà, c'est ça, quoi.
Tu vois, on va perdre des royalties, là. Moins 10% sur les royalties.
Bon, parce que le 3, il y a quand même des bougies à souffler, alors.
Ah ouais, il y a les 25 jours. Tonnage Records, ouais. Quoi.
Du taulier.
Le taulier, là.
Le taulier, l'ami le daron.
L'ami Christophe, le daron. Daron Emo, quoi.
Ok. Alors, ça vous parle, Stonehenge Records, ouais. Ça vous
ah ouais,
évoque
clairement.
Quoi, Stonehenge Records?
Ça m'évoque, ça va le faire criser ça va le faire criser d'entendre ça, mais ça m'évoque un peu l'ébullition français pour ouais. Moi, quoi. Clairement, quoi. Tu vois,
ouais, je vois bien.
Et c'est au moins tout aussi honorable que ce que l'ébullition a pu faire, quoi.
Ouais, carrément. Ouais.
Moi, c'est le côté politique, en fait.
Ouais, c'est
quand on parlait de politique quand tu fais de la musique ou quand tu sors des groupes, en fait. Bah ouais, enfin c'est clairement ça quoi. Tu bon après moi c'est pour ça que sur sur Stone Age tu en es bien quoi, parce que clairement c'est en adéquation avec ce qu'on dit, avec ce qu'on fait, enfin ouais, voilà,
une cohérence vraiment entre le groupe, le label, ouais. L'histoire du label aussi, ouais, ouais. Je pense quand même, ouais, clairement, ouais. Qui a su traverser les âges.
Donc voilà. On t'adore Christophe,
on t'aime.
Alors qu'est-ce qui se passe le 3? Alors il y a des otaries ou non, pas d'otaries.
Ours polaire.
Ouais, ours polaire compagnie.
Triple loops. Il y a sur la patinoire du Capitole. Ouais.
Il y a plusieurs groupes.
Ouais.
Non, vas-y, Nico, c'est toi le.
Non, mais j'arrive jamais à prononcer le groupe de Christophe. Plus.
C'est Natulas.
Natuwache.
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 Natuwache. Ouais, on dit Natuwache quand Natuwache. On parle. Bah, après, je sais même si c'est pas.
Manukache. C'est Manukache.
Manukache. Ah, c'est très dur parce que ça peut rester. Manukache.
Désolé, je voulais pas.
Il y a Manukache. Batteur sur les albums de Stéphane Etcher quand même. Stéphane Etcher.
Ah ouais, très bien.
Passion que je partage avec Christophe, hein, d'ailleurs.
Stéphane Etcher, il a pas fait un 45 sur Stone End.
On est en train de dériver.
Mais je pense que Christophe l'aurait sorti. Christophe l'aurait sorti. Il adore Stéphane Etcher.
Stéphane Etcher avec Still Life, je crois.
Il va me répondre et me dire
ouais,
oui.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Produit ça, par Ken McLeod, quoi.
Non, du coup, ouais, le 3 ouais, samedi, pardon. Là, au Pavillon Sauvage à Toulouse, c'est les 25 ans de Stone Age Records. Ouais. Et donc, il y a
Watu.
Natuwache. Dans l'ordre.
Il y a Woodwork, donc, en second. Il y a Chaviré, groupe de emo punk nantais.
Ouais.
Ça, c'est les copains. Et
Modern Love. Ok.
On peut dire que c'est du post.
Ils sont scandinaves. Ouais, ils définissent comme post-punk.
Post-punk,
hein.
Ouais. J'aurais
jamais. Donc la particularité, c'est que, mis à part Natuwache, mais ça ne saurait tarder, tout le monde est sur Stone Age, en fait. C'est
effectivement,
c'est,
ouais.
Voilà, c'est ouais. Un espèce de gros clin d'œil, gros câlin à Christophe et à Stone Age.
C'est
quoi.
Ça, il fait jouer les groupes du roster, quoi.
C'est ça.
Et c'est en soutien à la cage.
Ouais,
c'est important aussi
cage,
pour
ouais.
Vous. Enfin, je sais pas si ça vient de vous.
Non, mais c'est un commun accord de avec Christophe, quoi. Okay. Il a soumis l'idée. Je trouve ça cool parce qu'en fait, les bénéfices du LP partaient à la cage, en fait. Donc,
caisse d'autodéfense juridique, hein, ouais, pour ceux qui sont pas au parfum.
Okay. Voilà. Et du coup, c'est ceux qui savent pas, la cage, en fait, ça permet de payer des mandats à des inculpés qui ont été victimes des violences policières, des dernières manifestations ou même de. Enfin, les mouvements sociaux, mais pas que, quoi. Enfin, voilà. Okay. Du coup, ben là, c'est une occasion aussi de faire un soutien, de remplir les caisses de du cage, du coup. De la cage, pardon. Ouais. Parce que c'est un comité d'autodéfense.
Donc, on est vraiment, pour le coup, plus que de la musique, quoi. Faire en sorte que ce soit pas que du divertissement, quoi.
Oui, ben ouais, on peut tout faire, quoi. Il y aura à manger, là.
Il y aura
à manger et à boire. Et peut-être un gâteau.
Faut venir, quoi.
Avec des bougies.
Combien de followers sur le Facebook, là? Parce que.
De followers,
non, je sais pas, je sais pas si c'est le terme de
les gens.
Non, c'est pour faire pour les statistiques.
Je crois qu'il y a 50
que vous avez quand même réussi à faire une espèce de statistique fictive du nombre de personnes, quoi, ouais, à partir
on a
de
fait
ces données-là.
Ouais,
donc on était à combien?
Il y avait, je crois, il y a 55 participants,
on multiplie par
3,5 100 ou 200 intéressés, du coup, une centaine de personnes, donc environ, on compte 130 sandwichs.
Sandwich, sachant qu'il y a des gens qui en mangent deux.
En prévente, on est à combien? Vous savez pas.
Prévente.
Il y a des préventes.
Il y a des préventes à la Fnac. Prévente à la Fnac.
C'est Virgin, non? Ou Christophe Philippe, tu savais Virgin, non?
Oui, Virgin Megator.
Megator.
Est-ce qu'il y a un joyeux anniversaire de prévu quand même?
Ouais.
Je peux pas le dire, mais oui.
Avec des bougies sur les sandwichs.
Quoi.
Des bougies sur les sandwichs,
très bien quoi. Bon, 25 ça peut tenir, ouais.
Ah, ça tient si tu fais deux gros sandwichs. Grosse baguette, ça tient.
Deux sub 30.
Ouais, c'est ça.
Tu mets 2 fois 25. 2
fois 25,
bougies,
ça passe quoi.
Divisé par 2, multiplié par 3, 14.
7,75.
Ouais. Bon, en tout cas, on peut dire que c'est l'événement quand même.
Ah ouais,
l'événement 2018.
C'est
quoi.
Le main event, c'est le main event Stone Age.
C'est ça. Of the 25 years of the birthday quoi.
Of the birthday. Non mais ça va être cool quoi. Mais déjà c'est cool de jouer à Modern Love et Chaviré.
Ouais.
Et Natulach et
Manukache.
Presque. Syllabe, consomme.
Vous pouvez démarquer.
Et Natulach.
Ouais non, ça va être cool quoi. Vraiment. Et après on part à Paris avec eux, donc ça va être cool.
Ah vous quand ouais, c'est dans le cadre d'une mini tournée ou une mini.
Ouais, un week-end.
Ouais, week-end, ouais. Parce qu'en fait Modern Love font Can Keep Us Down à Barcelone la veille, donc le vendredi. Ils font Toulouse après Paris, et après ils refont d'autres dates et Chaviré ils font juste les deux dates comme nous en fait.
Ouais, ils accompagnent aussi, c'était histoire d'eux parce qu'ils sont vus, tout le monde s'est vu au fluff.
Ok, donc c'est l'occasion de refaire le crew.
Ouais.
L'ambiance potache.
Non, c'était vraiment. Ben, en fait, nous, c'est la première fois qu'on rencontrait Modern Love. Nab connaissait
les gens qui
Eric
jouaient.
Anarchy, un chanteur. Et après, ben, c'est le... ouais, enfin là, c'est l'occasion de se retrouver. De...
Il faudrait faire un espèce de featuring, un truc, un morceau commun. Je sais pas si.
Ouais,
sur les joyeux anniversaires avec Manu
Katché. Ah ouais,
avec Manu Katché à la batterie.
Ça doit être simple comme rythme à faire, joyeux anniversaire, un truc. Tu vois, pas trop compliqué. Ouais, voilà, je pense que ça peut le faire.
Un petit son Carlos comme ça.
Bon, ben vraiment, tu nous l'as bien vendu.
Ouais.
Vivement samedi, qu'on assiste à ce.
Par contre, dépêchez-vous, le concert est bientôt
sold out. C'est important de le dire.
La m'a appelé pour me dire que le concert était bientôt sold out.
Non, c'est important comme information.
Déjà présente, hein.
Les places vont finir sur Viagogo à 500 euros. C'était une place pour Adèle.
Vous n'avez pas de titre tiré de la discographie Stonehenge sur votre choix perso
Non.
Tu l'as pas demandé.
Ouais, non,
ouais,
c'est vrai.
Clair,
ouais.
T'as pas fait. Oh, y'a ce qu'il a pas fait. Non, on a rien. Non, Snapcase n'a pas été signé sur Stonehenge Records.
Sinon, il vivait dans un manoir.
Ils ont insisté, mais Christophe voulait pas.
Christophe voulait pas. Il y a Undertow et Quicksand. Non, ils ont pas.
Bon, on va passer un petit.
Oh, mais on. Au hasard, hein, un titre qui vous fait plaisir, même si c'est pas sur Stonehenge, quoi.
Oh, attends, on va pas faire deux titres de Nab, là, parce qu'après, il va... Non, parce que je sais pas, après, il y a...
Ou le Quicksand.
Ah, le Quicksand.
Omission.
Oh, ouais. Super bien. Quicksand, Omission.
Omission.
Christophe, faut venir, hein, si tu répètes pas, franchement.
La version EP.
Sou, il commence déjà à préparer les sandwichs.
Ouais.
Parce que 150, ça en fait, les sandwichs.
Eh ouais, non, ça doit bien commencer à stresser un peu. Ouais, 150 sandwichs.
Ouais. Non, mais 150 sandwichs, je sais pas, moi, c'est... Oui, on parle à haute voix, désolé, on est en ligne, mais c'est pas grave, le temps qu'on cale le morceau, tout va bien se passer, c'est important de manger, il faut vous nourrir.
Voilà, de manière saine. Bon, hein.
Cool.
Oui, il faut manger.
Omission.
On termine. Bon. Question 14. C'est ça que vous avez demandé. Je trouve que vous avez vraiment insisté pour la question 14.
Ah, mais ouais, parce qu'on la connaît pas et du coup ça nous intrigue. C'est qu'il y a.
En plus,
restez concentrés parce qu'il y a 202 questions.
Voilà.
Donc on est là
on, est à la 14. Non, en plus, c'est une que vous connaissez pas. Ouais, voilà, c'est un truc qui m'a toujours intrigué, vraiment, et interrogé sur la différence en fait entre les auteurs eux et leur œuvre. Tu vois, est-ce qu'on peut arriver ou pas à faire le distinguo entre les deux? Je pense notamment à Céline, c'est un peu toi, l'exemple qui me vient.
Ouais, c'est vraiment l'exemple.
Ouais. Tu vois, genre, tu connais Céline, est-ce que tu peux apprécier les bouquins de Céline?
Il y a un débat que j'ai écouté récemment sur cette question. Pas sur Céline, mais sur exactement la même question. Quoi.
Comment il s'appelle, l'autre violeur de gosse, là, ce connard là.
Polanski.
Polanski, ouais.
Ah voilà.
Ils ont fait un truc à la Cinémathèque de Paris ou je sais pas quoi là pour un hommage.
Ouais.
Et il y a des gars qui disent ouais non mais c'est bon, on est là pour l'artiste, je sais pas quoi. Tu dis mais mec, enfin évidemment t'as l'œuvre du mec quoi, il peut être très très bon dans ce qu'il fait etc. Mais enfin il y a un mec derrière qui fait de la merde quoi, enfin qui viole des gosses quoi. Tu fais pas un hommage quoi. Après tu peux aimer la personne, enfin tu peux aimer l'artiste en
le
fait
travail, ouais,
le travail mais pas
de problème, quoi.
Mais le fait de le mettre à l'honneur de faire la louange
c'est difficile de faire le distinguo entre les deux.
Ouais, c'est une vraie
ça, je pense c'est très compliqué. Il y a forcément une partie de toi qui réprimande un peu ça parce que forcément tu fais le lien entre l'auteur et son œuvre parce que c'est quelque chose qui est presque physique quoi. Ouais. Le mec s'est quand même dépensé dedans moralement,
et même si l'œuvre en elle-même ne
reflète pas le...
ouais, valorise pas à un moment donné par exemple les pires travers
ouais mais c'est difficile de je pense que c'est possible mais je pense que c'est très difficile de dissocier ça quoi.
C'est vrai que bon, la littérature c'est un cas particulier qui est peut-être un peu loin, mais même dans certains groupes de hardcore, il y a certains qui peuvent être un peu patriotes, mais qu'on écoute. Là aussi, est-ce que vous écoutez, tu vois, il y a ce côté-là aussi d'ambiguïté aussi, des groupes de punk rock, de oi, des trucs comme ça, un peu ambigu, tu vois.
Patriotes aux États-Unis, de toute façon, c'est délicat, ce qu'ils le sont quasiment tous. Et c'est quelque chose qui est culturel parce que c'est, je pense, à un jeune pays et qui a eu besoin de s'émanciper. Tu vois, comme il y a beaucoup de luttes de gauche qui parlent d'indépendantisme, tu vois, que ça peut être le Pays Basque, ça peut être la Bretagne, ça peut être la Catalogne. Et t'as toujours les deux pans qui travaillent dans ce concept-là d'indépendantisme. Tu vois, t'as les pans de l'ultra-gauche comme les pans de l'ultra-droite sur l'aspect conservateur ou sur l'aspect...
Qui peuvent se regrouper dans
libéral.
Sur
alors,
des...
Alors, pas se regrouper, mais qui travaillent sur la même branche indirectement, quoi, tu vois. Et c'est toujours délicat, tu vois, t'as les choses que t'as envie de soutenir et comprendre, tu vois, le fait de voir s'émanciper d'un État qui est un peu main basse sur toi, en même temps, l'aspect conservateur sur l'aspect culturel des mœurs et qui peut faire appel à des mentalités un peu dégueu, notamment de différenciation ethnique et autres, quoi. Donc ça que c'est très délicat. Et je pense aux États-Unis, tu vois, on peut leur reprocher d'être patriote parce que nous avec nos mœurs, tu vois, on parlait tout à l'heure
de juger avec nos propres systèmes de valeurs,
exactement, ouais. Tu vois, nous en France le patriotisme c'est quelque chose qui est pas forcément très bien vu, quoi, ou qui ne l'est plus trop, du moins c'est peut-être ces 50 dernières années, quoi, par rapport à tout ce qui a été fait l'après-guerre, la guerre d'Algérie et toutes les manœuvres qui ont été faites sur le plan politique et militaire. Et nous, on juge ça avec nos valeurs françaises. C'est que quand tu vois les gens mettre le drapeau français à leur fenêtre, tu serais là, tu fais non, mais les mecs, ils se croient où? Et aux États-Unis, tout le monde là. Tout le monde là, tu vois.
Ouais, ouais.
Et pareil, comme l'aspect un peu anticommuniste, tout ça, c'est des choses qui ont été héritées de la guerre froide. Et le fait que aux États-Unis, on ait vraiment du mal même sur les gens de gauche à trouver le mot communisme ou communiste entre guillemets sexy, c'est quelque chose qui est presque historique et quelque chose où tu peux pas forcément leur en vouloir ou autre. Tu vois, par exemple, moi il y a des groupes que j'adore, hein, de New Yorkais, type vraiment le groupe vraiment mortel, c'est Warzone. Tu vois, c'est un groupe où les mecs sont à moitié déguisés en bidas, ils sont tous issus de minorités, pourtant tu vois là-bas, que ce soit je sais pas, je veux dire des conneries, hein, tu vois, que ça peut être afro-américain, ça peut être
c'est Rebis, celui, c'est ça, c'est
Rebis,
ce groupe,
ouais, exactement,
ouais. Chanteur décédé,
oui, c'est ça. T'as les Italiens, comme t'as à New York, hein, les Italiens, les Portoricains, t'as tout ça qui est brassé en fait là-dedans, et les mecs sont super patriotes, quoi. C'est les États-Unis, et ils ont le drapeau sur les t-shirts, sur les, enfin c'est des choses que qui tu ferais en France, tu serais catégorisé de groupe de rack, quoi. Tu vois, aux États-Unis, non, t'es un groupe de hardcore, y a aucun problème. C'est, je pense, c'est une histoire de, comme on disait tout à l'heure et comme tu le disais très bien, le système de jugement, le système de valeur, quoi. Et se sentir à l'aise ou pas, je pense que ça dépend. C'est vraiment une histoire de situation plus qu'autre chose, quoi.
C'est-à-dire, quand t'écoutes, c'est vraiment... t'as toujours la grille de lecture comme ça.
Non, quoi. T'es obligé d'adapter, quoi. Ouais. T'es obligé d'adapter, quoi. Tu veux pas, je pense que tu veux pas. On parlait de tout à l'heure de comment ça s'appelle, d'artisanat. Je pense que tu peux pas bricoler tous les matériaux avec un seul et même outil, quoi. T'es obligé d'adapter l'outil au matériel, quoi. Et je pense que c'est une analogie qui est faisable sur l'écoute musicale de différents groupes, quoi. T'es obligé un peu de t'adapter, quoi. Bien sûr, quand t'as des trucs, t'as la limite, hein, tu vois, quand t'as des trucs vraiment dégueulasses qui sont dispensés dans les paroles ou les trucs vraiment qui craignent.
Tu
ou
peux
alors,
t'arranger aussi
ou
alors, avec tes propres limites.
Ça appartient à chacun de le faire, quoi. Mais c'est vrai que.
Il y a une tolérance certaine parfois sous prétexte de groupe culte, je dirais, ou de personnes cultes.
Ça aussi, ouais. Puis aussi, t'as des choses, voilà, tu as des.
Nostalgie aussi.
Et t'as des groupes, au contrario, tu vois, qui ne s'affichent pas du tout, puis à côté de ça, qui participent à des meetings ou des manifestations dégueux, et tu vois, qui tombent de nulle part, quoi. Et même par rapport à, on parlait de faire la distinction entre l'œuvre et le personnage, ouais. Tu vois, là récemment t'as Woody Allen, tu vois, qui a 82 ans, qui s'est fait prendre la main dans le sac, enfin des vieilles histoires qui sont montées à la surface, hein, les vérités finissent toujours par se savoir, mais tu vois, le mec avait fait carrière brillante, respecté de tous, grand nom du cinéma, restera dans les pages de l'histoire, puis à l'aube de crever, ben hop. On sort le ticket, et puis il y a ça et ça et ça, et ben là, et plus personne ne travaille avec toi, tout le monde rend les cachets sur les derniers films faits, et tu deviens complètement outcasté de tout. T'es passé du tout au rien, c'est la descente aux enfers. Et tu le plains, en même temps tu le plains pas, parce qu'il est seul responsable de ce qui lui arrive, quoi.
Oui, il a été accusé d'agression sexuelle, ça.
C'est
par,
ça,
par
sur sa belle-fille,
sa
ou sa... Ouais, c'est ça, ouais. A sorti ça après, je sais pas, 40 ans, je me rappelle plus de son histoire, mais ça remontait à la surface, et là il s'est pris la tempête de feu, là. Mais là tu vois, c'est comme quoi, hein, tu vois, tout
donc tu verras ses films différemment, si par exemple c'est,
bah là,
c'est
du coup, ouais, effectivement, ça
quand
va,
tu reverras ses films, t'auras toujours,
je pense,
si tu revois ses films,
ça, après je suis pas un grand connaisseur, hein, de Woody Allen, hein, je suis pas un professionnel du cinéma, mais c'est vrai que
Star Wars, c'est cool quand même, ça.
Star Wars, ouais, Jurassic Park
c'est...
non mais après, blague à part, je pense, ouais, ça peut carrément influencer ton l'opinion sur le, tu aurais peut-être vu les films différemment si tu n'avais pas été au courant, je pense, clairement.
Ouais, clairement.
Donc c'est difficile, ouais. Tu vois, c'est vraiment cas par cas, je pense.
Okay. Donc Warzone, tu peux, par exemple.
Ah ouais.
Parce que tu disais.
Ouais, ouais,
Woody
clairement.
Allen,
parce que
tu peux pas.
Non, je peux pas. Non, Warzone, je pense que c'est. Tu vois, malgré un peu les histoires dans lesquelles ils peuvent être rattachés, je pense que ce type a apporté tellement de choses positives pour la musique et autres, que sur la balance.
Ouais, parce qu'après, entre ce qu'il fait lui sur son comportement et après ce qu'il écrit, je pense aussi t'as une différence.
Aussi, après, c'est vraiment inspiré du vécu, hein, tout ce qu'il a écrit quand même. C'est ça qui est bien aussi dans le punk rock ou le hardcore, c'est que c'est souvent inspiré du vécu, et c'est des choses du coup que tu peux vraiment appréhender assez facilement, quoi.
Ouais, d'autant qu'on est vraiment dans le témoignage, je trouve ça super important, quoi, que sa propre parole, même si elle est personnelle, mais de toute façon, elle ouvre le champ, quoi.
C'est ça, exactement.
Ouais. Tout le monde se retrouve dans le témoignage.
C'est ça, effectivement,
quoi.
Parce qu'il a pas une vie non plus d'extraterrestre, quoi. Il a eu, je pense, comme tout le monde, il a ses galères et tout ça. Et puis bon, bah, il chante ce qu'il vit, quoi. Donc c'est vrai que t'es un être parmi tant d'autres, et forcément ce sont des choses qui ont pu être vécues par des milliers ou des millions de personnes.
Clairement. Je vois parfois les disques comme des livres de pour enfants, tu sais, qu'on lit à la veillée, qui racontent l'histoire, notre histoire, et bien au-delà, de toute façon, quoi. Et pour le témoignage, tu parlais aussi de ta grand-mère, puisqu'on parlait de paroles et de transmission, quoi, qui a aussi témoigné.
Ouais.
Et Je sais pas si voilà tu voulais en parler pour ce côté de transmission quoi et dans la vie et à travers un disque quoi. C'est-à-dire est-ce que c'est ça peut être la même chose quoi quelque
oui,
part.
Oui.
C'est-à-dire
là le enfin ce texte là c'était le T4 enfin From the T4 en fait c'était sur le programme d'extermination des juifs en fait mais pas que tu vois enfin des homosexuels des ziganes etc.
Extermination de masse ouais.
Des handicapés aussi mentaux. Et du coup, ouais, donc le texte en fait parle de. En fait, c'est un texte que j'avais écrit à la suite d'un autre en fait, qui s'appelait. Non, avant un autre justement, c'est sur la Palestine justement, enfin bon, pour mettre le lien que tu peux être juif et pro-palestinien, ma grand-mère était juive et pro-palestinienne du coup. Et histoire de famille assez tragique, enfin bon, voilà, son grand-père était mort dans les camps d'extermination, et moi j'ai toujours grandi là-dedans, enfin un peu, elle en parlait pas souvent, mais. Et raconter des histoires, tu vois, comment elle a réussi à échapper au camp de concentration, etc. Et tout ça. Enfin, et moi, ça, enfin, c'est de l'histoire de famille, du coup, t'es encore plus dedans, tu vois. T'es vraiment. Tu sais un peu comment ça se passe, tu vois. Enfin, c'est à la minute, des fois, tu vois, sur ces histoires-là.
L'explication de texte est super touchante parce que c'est vraiment ce que tu dis, quoi. Ce côté.
Ouais.
D'immersion et du côté hyper humain quoi
ouais enfin n'importe quelle histoire va te raconter ton grand-père ou ta grand-mère tu vois sur ce qu'il a vécu surtout ce qu'il a traumatisé au final le fait qu'elle se livre en fait c'est quand même délicat tu vois c'est des sujets super forts quoi, ouais. Et surtout quand t'as perdu des membres de ta famille ou bon et du coup un jour elle était chez elle quoi en vacances et il y avait je crois qu'il y avait un bombardement de l'État israélien sur des territoires occupés. Et moi, je comprenais pas, tu vois. Et elle était énervée, quoi. Elle comprenait pas pourquoi il faisait ça. Et elle disait, moi, je dis, mais je sais pas, t'es juive, quoi. Du coup, enfin, j'étais jeune, quoi. Mais enfin, elle me dit, ben non, mais je suis juive, quoi. Donc, voilà, et j'ai vécu ça. Mais bon, moi, ce qui se passe là-bas, ça, je suis pas d'accord, quoi. Clairement pas. Enfin, je me reconnais pas dans l'État d'Israël, tu vois. Et en fait, à partir de là, enfin, je commençais un peu à moins raisonner de manière binaire, tu vois, où en gros, t'es. Si t'es juste, t'es forcément contre les Palestiniens, ou si t'es. Enfin.
C'était pas bataille rangée, quoi.
Ouais, voilà. Et du coup, le texte, en fait, je savais pas si je l'écrivais, en fait, parce que c'était quand même assez perso, mais au final, je me suis dit, comme tu disais, tu vois, c'est des. T'as besoin d'extérioriser des choses, quoi, ton quotidien, ton vécu, tu le mets sur papier, et après.
En fait, voilà. Le témoignage se poursuit, quoi. Mm. C'est vrai, à travers le disque, à travers un texte, je trouve ça super, quoi. Voilà, que la parole qu'on continue et que quelque part le témoignage se poursuive quoi.
Ouais. Mais je pense que c'est important de le rappeler ça, tu vois, enfin de le dire, enfin de l'écrire, c'est une chose, tu vois, mais de le même de le rappeler sur scène, tu vois, à chaque fois.
Contextualiser quoi.
Toi. Ouais. Parce que bon, enfin après c'est clair, enfin tu vas écouter un morceau, tu dis ouais, ok, enfin il parle de ça, tu lis rapidement l'explication, mais bon. Ça parle du génocide des juifs, ok. Bon, encore un texte sur l'Holocauste, tu vois. Enfin, c'est y a rien d'original au final, tu vois. Mais après, je pense que c'est l'appropriation personnelle, quoi, et le vécu de la personne qui écrit qui fait peut-être la différence, tu vois.
Ouais, ça incarne un peu, tu veux dire.
Ouais. Ouais. Donc, ouais.
Bon. Voilà. Bon, mais en tout cas, je sais pas, on peut peut-être terminer sur cette idée de transmission, quoi.
Ouais,
et qu'on est clairement. Tous acteurs de la transmission. Et
ouais, clairement.
On a cette responsabilité aussi, quelque part.
Ouais,
quoi.
C'est ça, tout sa pierre à mettre à l'édifice.
Ouais, carrément, à travers que ce soit le hardcore ou.
Ouais, ou n'importe quel vecteur culturel,
bien sûr, carrément.
Politique, la radio,
tout à fait, quoi. Et dans la vie, les gens que tu croises et tout ça, quoi.
Clairement.
Bon, c'est une belle conclusion, je pense, pour cette émission.
Ouais.
Du coup, le dernier morceau qu'on pensait mettre avec Alex, et Alex a choisi un très bon morceau de Integrity, c'est Jagged Vision of. Je sais plus, je sais pas.
Alors attends, je vais te le dire parce que le titre est long.
C'est sur Ebullition. J'arrive pas à le placer, c'est pas possible.
Je pense que c'est le contre-pied strict.
Clairement, ouais, mais ce morceau est génial, quoi, musicalement, même les paroles, elles sont vraiment cool.
Alors, ce morceau, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Jagged Visions of True Destiny.
Ah ouais,
Destiny, pardon.
Ouais. We'll be right back.
Et voilà.
Eh bien, merci. Ouais, merci Woodwork.
Ben, merci à toi.
Merci à
WW.
Merci à toi, Germain.
Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Bon, on se donne rendez-vous le 3, s'il reste des places.
Demain, ouais, ouais, il restera des places. Bon, c'est
monsieur
bon.
Mora a promis une bise. Non, il n'y a pas un truc style. Non, il n'y a pas un truc.
De quoi lui taper
l'affiche ? Ouais, tu.
Mettre l'affiche devant tout le monde, là ?
Ouais, oh. Qu'est-ce que. Non, une place gratuite, si je sais pas. Non, il n'y a pas ça.
Faudrait faire un jeu, tu vois.
Ouais.
Putain,
t'aurais dû faire ah ouais, dû gagner des places, quoi.
Bah ouais, mec.
C'est, il fallait trouver le label de Still Life. Voilà. Et c'est lui qui a gagné. Alors, c'est ouais, pas ouais, cool. C'est, il a gagné son propre.
Non, mais j'ai donné la réponse.
Et ça,
fait.
Bravo, tu pourras.
Bah, tiens, on peut faire un jeu. On peut faire un jeu tout de suite.
Bah alors, ouais, t'as, alors, t'as, t'as 20 secondes.
De quel album est tiré le morceau de Integrity qui vient juste de passer?
D'accord.
Voilà.
Là, on donnera la réponse dans 15 jours.
Ouais,
les
voilà.
Gens, ils ont 15 jours pour. Non, ouais. Ils donnent la réponse en, sur place.
Sur place.
Ouais, trop bien.
Voilà. Voilà.
Ouais. Trop, trop bien. Voilà.
Si il y a la bonne réponse, il y a Pablo qui jouera de la guitare sur le work.
Voilà, c'est
qui
ça.
Qui fera un saut de guitare.
Alors, je répète, hein, c'est quoi viendra. C'est Jagged Vision of True Destiny.
Of True Destiny, ouais.
Voilà, c'est le nom du morceau. Voilà, si vous trouvez.
Non, mais écoutez cet album, il est juste parfait, quoi.
Ouais, la personne gagne un selfie.
Mais il fallait pas dire le nom de l'album. Mais t'es bête.
Il est con.
Ah non! Allez, on retrouve, allez, on reste bon. Ici. On...
tant qu'on n'a pas trouvé.
Tant qu'on n'a pas trouvé.
Qui est le. Enfin, Animal Liberation. Quel est le groupe qui. qui fait Animal Liberation?
C'est le début de l'émission.
Ouais, depuis le début de l'âge préhistorique, je dirais.
D'accord.
Okay. Voilà, depuis la nuit des temps, il y a un groupe qui fait Animal Liberation. Et là, je vous ai vraiment fait une colle là, parce que je vois dans vos regards que là, vous êtes pas là, quoi.
Il y a Philippe qui regarde et qui écoute. C'est bon. Pas vrai.
Donc
non,
voilà,
si, on
ça
le
me
sait.
Semble pas mal. Un selfie avec Philippe pour celui qui trouve samedi, c'est pas mal, quoi.
C'est cool, quoi.
Avec Christophe, là, c'est celui qui a sa soirée.
Que quoi, Tony?
Avec Christophe, le selfie.
Le selfie avec Christophe.
La photo a voulu fric quand même. Philippe, quoi, avec Christophe, il y a quand même. Il y a des points là.
Il y a des points marqués.
Il y a des points hardcore là.
Il y a 90 ans hardcore,
hein. Sur bout. La balance. Bon, en tout cas, merci. C'était cool d'être venu.
Merci à toi.
Et puis, bonne chance et bon courage pour samedi. Ça va grave le faire, quoi. Il y a,
ouais,
y a
ça
pas de
super,
raison,
cool.
Quoi.
Bonne envie.
Ouais, carrément. Et puis, nous,
ouais,
on se retrouve.
C'est pas bien sauvage. C'est à partir de 20h.
Voilà, peu de choses.
Prix libre pour les adhérents adhérentes. Adhésion 1€, voilà.
Super.
Aussi.
Qu'est-ce que.
Il y aura des sandwichs et quelqu'un a déjà trouvé la réponse.
Non,
ça n'a rien à voir.
Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il parle exit, chocolat. Je comprends pas, Christophe. Il m'envoie des mots.
Il y a chocolat dans... qui vient. Non, vous êtes.
Ah, c'est ça le.
Non.
Animal Liberation?
Ah non, c'est pas chocolat.
Oh
quelle honte,
Jésus,
quoi. C'est
Joseph.
Pas possible, quoi.
Jesus
non.
Christ.
Non, c'est pas Christophe.
Bon, mais voilà, ouais, on va quand même se quitter maintenant.
Ouais,
parce que là, sinon,
merci public, toi qui étais dans ta voiture en train d'écouter Canal Sud, salut.
Salut.
Non, ben, nous, sinon, pour l'émission, on se retrouve dans 2 semaines, c'est-à-dire le mardi 13 février, 21h30 à 23h, sur 92.2 MHz de Canal Sud ou sur Internet. Allez. Bon, ben,
ciao.
On m'a dit, ou à dans 2 semaines. Bye bye.
Ciao, ouais, salut, bye bye.
Salut.
Ciao.
les pêcheurs allemands.